18h. Le journal de 18h. César Yao.
Bonsoir à tous, le sommaire de ce jeudi 18h. Sur une nouvelle plainte de ses militants, Oura Frumo et Blesson Christophe, le PDC IRDA, est assigné à nouveau ce jeudi devant le tribunal des référés à un jour de son 8e congrès extraordinaire à Yamoussoukro. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient de formaliser un partenariat avec le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Cet accord est construit autour de la communication, de la mobilisation des ressources et de la coopération. Dans l'actualité internationale, les opérations de vote se poursuivent pour les élections générales en République démocratique du Congo. La commission électorale a permis aux centres de vote qui n'ont pas pu ouvrir hier de permettre aux électeurs de voter aujourd'hui jeudi. Le dépouillement des résultats a démarré dans quelques régions partout où les opérations se sont déroulées sans incident. Dans cette édition, la correspondance particulière de notre confrère René Capita. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Sur une nouvelle plainte de ces militants, Oura Frumo et Blesson Christophe, le PDC IRDA, est assigné aujourd'hui jeudi devant le tribunal des référés à un jour de son 8e congrès extraordinaire à Yamoussoukro. Ces deux militants avaient saisi une première fois le juge des référés du tribunal d'Abidjan Plateau qui les a suivis dans leur requête en ordonnant la suspension et le report du congrès prévu pour le 16 décembre dernier. À Abidjan est reprogrammé pour demain vendredi 22 décembre à Yamoussoukro après une réunion du bureau politique le mardi 19 décembre. Monsieur Oura et Blesson sont revenus à la charge ce jeudi en apportant encore l'affaire devant le tribunal. Les plaignants expliquent que les griefs portés contre la direction de leur parti qui lui a valu la première décision de justice n'ayant pas été solutionnée, le 8e congrès ne saurait se tenir en vertu de l'article 37 alinéa 2 du règlement intérieur du PDCI RDA. Affaire à suivre. L'espace d'échange organisé par le PPACI pour apporter son point de vue sur l'actualité a repris aujourd'hui jeudi après près de 3 mois d'arrêt. Le président du conseil stratégique et politique Justin Koné-Katinan s'est exprimé sur les élections de la Ligue des femmes et des jeunes du parti, la suspension du congrès du PDCI IRDA et l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Christelle Yesso.
Justin Koné-Katinan se réjouit de l'élection de la présidente de la Ligue des femmes tout en regrettant l'annulation de l'élection du président de la jeunesse.
Malheureusement, on n'a pas pu faire la Ligue des jeunes parce que là, il y a des jeunes, il y a beaucoup d'énergie. Et je crois qu'on n'a pas pu canaliser toute cette énergie et des informations pas bien en termes de sécurité, en termes de respect de l'ordre public, circulaire. Et le président Laurent Gbagbo, qui est très attaché à la paix sociale, notamment dans cette période de fin d'année, a pensé qu'il était juste et que nous les portions ce congrès pour essayer de contrôler l'environnement.
Sur la question de la suspension du congrès du PDCI, l'ancien porte-parole du PPACI adresse le soutien de son parti ainsi que celui du président Laurent Gbagbo.
Au moment où le PDCI annonce son congrès pour demain le 22, aujourd'hui, je vous parle à 14h, ils sont au tribunal. Parce que hier nuit encore, ils ont reçu une assignation à comparer devant le juge pour la même affaire. Au nom du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, nous disons tout le monde. Le président exprime tout son soutien au PDCI à bien. Jusqu'à plus le contraire, notre parti allié. Nous connaissons ça parce que ça nous est arrivé. Le conseil qu'on va leur dire, quand il regarde notre propre exemple, il faut qu'il tire les leçons. Pourquoi le président souhaite que le PDCI puisse trouver des solutions de leurs contradictions en interne?
Et enfin, selon l'ancien ministre, la CAN sera l'occasion de rassembler les fils et filles du pays et de rehausser l'économie de la nation.
Un petit retour en arrière pour dire que la décision de justice empêchant le PDC-IRDA de tenir son congrès extraordinaire a été levée cet après-midi même au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ainsi, le PDC-IRDA pourra tenir son huitième congrès, extraordinaire et élire son président comme annoncé, demain, vendredi 22 décembre, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Autre chose dans ce journal, une grâce présidentielle annonce la libération de 2000 détenus des prisons civiles de Côte d'Ivoire, selon l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire précisément. Cette mesure est certes salutaire, mais insuffisante au vu de la surpopulation carcérale dans le pays. Pour Paul Quadio, il faut sensibiliser davantage les magistrats à user plus des alternatives à la détention pour lutter efficacement contre la surpopulation des prisons. L'écoutons.
En plus des grâces, nous avons des alternatives à la détention préventive, des alternatives à la sanction elle-même, telles que les amendes, les sursis, les travaux d'intérêt général, qui peuvent être utilisés pour mieux décongestionner les nos prisons. 2000 personnes crassées, c'est bon, mais au regard du taux de surpopulation que nous avons, nous trouvons que c'est vraiment insignifiant. À Abidjan, déjà, nous sommes à plus de 11 000, alors que les 2000, ça concerne toutes les prisons. Nous trouvons que ça ne suffit pas. Il faut aussi aller plus loin et surtout, avec les nouvelles dispositions du code de procédure pénale, avec les alternatives à la détention, il est bon que les magistrats soient sensibilisés à utiliser ces alternatives-là pour gérer la question de la surpopulation carcérale en Côte d'Ivoire.
Vous parlez d'alternatives à la détention. On peut avoir une précision là-dessus? Qu'est-ce que c'est que l'alternative à la détention?
Les alternatives à la détention, nous avons par exemple le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet au juge d'instruction, plutôt que de placer quelqu'un en détention préventive, de laisser la liberté, bien sûr, avec quelques conditions. Nous avons aussi la transaction prévue par l'article 13 du Code pénal. Et nous avons aussi les injonctions thérapeutiques pour les personnes qui sont poursuivies pour consommation ou vente de drogue. Les travaux d'intérêt général s'appliquent aux personnes qui sont condamnées et plutôt que d'être en détention pour les infractions mineures, ces personnes peuvent être utilisées pour des activités communautaires, l'intérêt général. Il y a aussi le sursis et les amendes qui sont des alternatives à la détention.
Voilà, c'était Paul Quadio, président de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture en Côte d'Ivoire, a été joint par Constant Maillé. Journée internationale de lutte contre la corruption, la célébration solennelle ici en Côte d'Ivoire a eu lieu aujourd'hui même à Abidjan Plateau. Le thème national est unissons-nous précisément pour lutter efficacement contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Le président de la Cour des comptes représentait le vice-président de la République, Tiemoko Meili Kone, dans un compte rendu signé Junior Cardin.
Le thème international pour l'année 2023 est 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, unissons le monde contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a salué ce thème qui s'ouvre sur le développement. Épiphane Zorobi Balo.
La journée internationale de lutte contre la corruption est observée le 9 décembre chaque année pour réfléchir sur les problématiques de lutte contre la corruption. L'édition 2023 vise à souligner le lien crucial entre la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité et le développement.
Développement pour lequel l'engagement de tous s'impose. Au dire de Cheikh Ousmane, chef du bureau ONU-DC Côte d'Ivoire, qui a prononcé la conférence inaugurale.
Nous appelons tous les secteurs et toutes les générations à s'unir dans la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Renforçons la transparence et la responsabilité. Imposons des pénalités aux fonctionnaires corrompus. Améliorons la coopération et utilisons la technologie pour détecter et prévenir ces crimes.
Toute chose qui a amené le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, représentant le vice-président de la République, à mettre le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance devant ses responsabilités.
C'est le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Votre mission consistera donc, entre autres, à inscrire la Côte d'Ivoire sur la liste des pays vertueux qui inspirent confiance et attirent les investisseurs grâce à un climat des affaires attractif.
Selon le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, la Côte d'Ivoire va enregistrer la création très prochaine d'une académie de lutte contre la corruption.
Le gouvernement ivoirien vient de lancer un appel à candidature pour le futur poste du directeur général du Trésor, ce que salue ici Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté. On écoute son président, Dr Christophe Kwame, qui salue son extension à d'autres structures de l'État.
En réalité, dans le cadre général de la promotion de la bonne gouvernance dans un pays, il est intéressant que certains postes sensibles soit électif, soit appel à candidature. Dans le cadre précis d'un appel à candidature, l'idée derrière, c'est d'avoir le curriculum vitae, c'est d'avoir le technicien qui soit capable d'assumer le poste. Et deuxièmement, le fait de l'appel à candidature le rend indépendant des influences politiques dans le cadre précis où il serait nommé par une autorité politique.
Alors, vous dites que l'appel à candidature rend indépendant. Est-ce que c'est vrai?
Je dis, un des buts recherchés de l'appel à candidature, c'est que l'individu sélectionné sur la base de ses qualités techniques et professionnelles, de facto, le rend libre d'esprit et capacitaire par rapport au poste occupé. A contrario, s'il est nommé, il peut se sentir redevable de la personne qui l'aurait nommé. Il y a le trésor, il y a les impôts, et on avait souhaité la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, l'ARNP, Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, Direction Générale des Marchés Publics, que ces grandes directions qui s'occupent de la gestion des finances publiques aient à leur tête des personnalités qui découleront des appels à candidature.
Voilà, Dr. Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, joint par Francis Cassi. Après le lancement de la campagne dénommée « Carton rouge contre les violences basées sur le genre », le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient formaliser un partenariat avec le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Cet accord est construit autour de la communication, de la mobilisation des ressources et de la coopération en soutien à l'agenda du ministère concernant l'atteinte des objectifs du développement durable. Compte rendu signé Mata Touré.
Il s'agit surtout à travers cette signature de convention de donner un contenu concret à l'engagement international multipartite pris lors du lancement officiel de la campagne Carton Rouge contre les violences basées sur le genre. Nasséneba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant.
Carton Rouge a été lancé, le mémorandum a été signé aujourd'hui, mais le coup d'envoi réel se fera pendant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire, et nous espérons que ça sera ce carton qui sera montré avant le premier coup d'envoi par tous les chefs d'État, tous les invités spéciaux, pour que la discrimination et tout genre de violence faite aux femmes à l'occasion de cette CAN puisse avoir un impact sur tout le continent.
Quant au président de l'ARDN, Djibril Diallo, il a rassuré quant à l'engagement de son organisation à travailler sous l'autorité du ministère.
La vision de Madame le ministre du lancement, l'objectif était double. Faire une campagne sur l'étendue du territoire national de la Côte d'Ivoire et deuxièmement, faire une mobilisation au niveau des pays de la sous-région. Et c'est avec grand plaisir qu'il y a eu des ministres de délégation qui sont venus de la sous-région et d'ailleurs.
Un plan d'action annuel sera élaboré pour le suivi des engagements mis en œuvre par l'ensemble des parties prenantes et sera évalué après une période de 12 mois.
Un petit tour à l'intérieur du pays pour dire que le système d'observation de suivi de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire est désormais installé à San Pedro, l'objectif étant d'œuvrer pour une lutte efficace contre le travail des enfants dans cette localité. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Le travail des enfants et le travail socialisant, des expressions pas toujours bien saisies par le profane, sont expliquées par Tapé Djégué Apollinaire, directeur régional du travail à San Pedro et secrétaire général du SOSTECI, système d'observation de suivi de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, section San Pedro.
Le travail des enfants, c'est un travail qui met en mal la croissance, l'éducation et la santé de l'enfant. Tout enfant a sa place à l'école. Un travail socialisant, c'est un travail qu'un enfant exerce aux côtés de ses parents pour apprendre. Et ça, nous le mettons dans le cadre des travaux légers. Par contre, les travaux dangereux sont interdits. Quand vous prenez un enfant qui fait la vaisselle, c'est un travail léger, c'est un travail qui n'est pas interdit. Mais dès l'instant où cet enfant doit faire la vaisselle sur 3 heures de temps, ce travail léger se transforme en travail d'enfant, en travail dangereux.
Pour Kone Soumaïlia Kolo, sous-préfet de San Pedro, l'installation du SOSTECI à San Pedro doit être couronnée de succès dans les activités.
Le travail des enfants est une bataille chère à l'État de Côte d'Ivoire, eu égard à ses impacts socio-économiques sur la notoriété de notre pays. Conscient de ce fait, le gouvernement a mobilisé tous les acteurs concernés afin d'apporter des solutions appropriées. Au nom de M. le Préfet, je voudrais engager tous les acteurs pour œuvrer afin que les missions confiées au comité départemental soient un succès.
Du matériel opérationnel a été remis au comité départemental du SORCCI pour un fonctionnement efficace. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dans la région de Lifou, cette fois où les élèves du primaire, voilà, j'y arrive, ainsi que les collégiens et lycéens ne sont pas du tout à l'abri des cours de renforcement organisés par des enseignants les mercredis au samedi. Et pour participer à ces cours, les coûts mensuels vont de 3 000 à 5 000 francs CFA par élève et par matière. Eh bien, pour la bonne tenue de ces cours, le chef de l'antenne de la pédagogie de la formation continue de Daoukro, Nda Kwame Timoé, voilà, sillonne les établissements scolaires qui les abritent. Des détails avec François Kwa, il est notre correspondant sur place.
Pour le chef de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue, ce coup de renforcement qui foisonne dans l'IFU l'interpelle. Nda Timothée.
Pour autant que nous sommes la structure régalienne qui est pour la promotion de la qualité et que tout ce qui se passe comme activité pédagogique doit être nécessairement passé en vue pour comprendre que ça respecte les normes.
À l'en croire, à l'issue de sa tournée, un constat se dégage.
Des faiblesses, des lacunes quant à la façon donc de mener ces cours. Nous étions dans l'obligation de leur faire, en tenant des recommandations fermes, à l'effet de venir à l'antenne de la pédagogie pour y recevoir la méthodologie adéquate qui s'énonce en termes de pédagogie différenciée.
Il explique les normes pédagogiques en vigueur.
Ici, exclusivement des exercices pour faire comme le joueur des entraînements. Et en faisant ces entraînements, l'enfant se familiarise à ces outils qui sont utilisés et qui lui permettront d'être plus efficace en situation classe et d'être plus efficient quand nous allons avoir l'évaluation sommative à la fin. Donc le cours de renforcement en lui-même ne pose pas problème, mais c'est quand nous mélangeons les élèves à faible note, les élèves à notre élevé, et que nous leur donnons ces renforcements concomitamment et sans prendre en charge chaque enfant selon ses difficultés.
Cependant, pour des raisons pécuniaires, les enseignants ne doivent pas imposer les cours de renforcement à leurs élèves, a-t-il prévenu. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, plus de 44 millions d'électeurs convoqués aux urnes hier mercredi 20 décembre pour élire le président de la République, en même temps des députés nationaux et provinciaux et les conseillers municipaux, alors que plusieurs centres de vote avaient clôturé les opérations et procédaient déjà au dépouillement et à l'affichage des résultats dans plusieurs territoires à travers le pays. Le vote se poursuit encore ce jeudi après-midi, suite entre autres au déploiement tardif des kits électoraux, aux incidents enregistrés dans certaines zones ou encore aux problèmes techniques liés aux dispositifs électroniques de vote. Depuis Kinshasa, René Capita nous fait le point de la situation des opérations cet après-midi.
Le dysfonctionnement des machines à voter, les difficultés pour les électeurs de retrouver leur nom sur les listes électorales ou encore la non-maîtrise par ces derniers de la procédure de vote électronique ont fait que dans la plupart des centres, les opérations de vote se sont prolongées au-delà de 11 heures prévues par la loi. Dans les territoires de Kabambaré dans le Maniema au centre du pays, Manono dans le Tanganyika au sud-est ou encore à Kinshasa, certains centres de vote n'ont pu ouvrir que ce matin, comme l'a autorisé la Commission électorale nationale indépendante, alors que d'autres comme à Kasongolunda, dans le Kwango à l'ouest du pays, où les kits électoraux n'avaient pas encore été déployés, les populations attendaient encore d'exercer leur devoir civique. À noter que partout où les opérations se sont déroulées sans incident, le dépouillement des résultats a démarré à Kinshasa ou dans les territoires de Mahagi ou Kasséni, dans l'Ituri au nord-ouest, dans plusieurs autres territoires, mais également en France, Belgique ou aux États-Unis, où les résultats ont commencé à être affichés. Rappelons que ce sont près de 44 millions de Congolais qui ont été convoqués aux urnes pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, et pour les villes et communes urbaines, les conseillers municipaux. Depuis Kinshasa, René Kapita pour la Radio de la Paix.
Oui, c'était une correspondance particulière de notre confrère René Kapita. Et puis en sport football, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu, vous le savez, du 13 janvier au 11 février 2024 était au cœur de la tribune dénommée les Jeudis du district autonome de la vallée du Bandama. Occasion saisie par le ministre gouverneur de cette région, Jean-Claude Kouassi, pour appeler au civisme, à la paix, à la cohésion et à l'hospitalité. Écho de cette rencontre avec Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Bec.
Pour le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, la mobilisation pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football doit être de mise à Bouaké. De fait, Jean-Claude Kouassi appelle à la cohésion, à la paix et à un comportement responsable.
Un événement d'une telle envergure en appelle au professionnalisme de toutes et de tous, ainsi qu'au civisme et à un comportement citoyen. Il importe donc que l'image de la Côte d'Ivoire, image de pays de paix, de pays de l'hospitalité et de terre de progrès, soit préservée et entretenue par toutes, par tous, dans la paix.
Il invite par ailleurs les populations à faire en sorte que cette compétition sportive se déroule sous haute surveillance sécuritaire. C'est aussi la préoccupation du préfet de police de la région de Bouaké. De fait, le commissaire divisionnaire Maxime Moubio engage les populations à collaborer véritablement avec les forces de défense et de sécurité.
Les populations, elles doivent observer, rapporter toutes les menaces, tout ce qui est suspect, fait et geste aux forces de défense et de sécurité. Quand vous constatez un fait suspect, un individu suspect, immédiatement, l'acte que vous devez poser, c'est l'appel téléphonique.
À noter que le stade de la paix de Bouaké accueille le groupe D composé de l'Algérie, de l'Angola, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des titres. La décision de justice empêchant le PDC-IRDA de tenir son congrès extraordinaire a été levée cet après-midi même au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Ainsi, le PDC-IRDA pourra tenir son 8e congrès extraordinaire et élire son président comme annoncé demain, vendredi 22 décembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient de formaliser un partenariat avec le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora. Cet accord est construit autour de la communication, de la mobilisation des ressources et de la coopération. Enfin, dans l'actualité internationale, les opérations de vote se poursuivent pour les élections générales en République démocratique du Congo. Le dépouillement des résultats a démarré dans quelques régions partout où les opérations se sont déroulées sans incident. Fin de ce jeudi 18h sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous demain vendredi 7h. Tout de suite, le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Boulou.
Santé pour tous. Santé pour tous. Interview.